À 20h04, un excellent début de soirée avec nos amateurs de sport et nous retrouvons à l'envers du décor ou du globe, et bien sûr à Pyeongchang, Philippe Quentin. Bonjour dans ton cas, Philippe.
Oui, tout à fait. Salut Mario, c'est bon matin dans mon cas.
Oui, alors qu'on s'approche des matchs très importants dans le hockey féminin, les demi-finales, ouais. Bien qu'on s'attende à retrouver les États-Unis et le Canada en finale, mais là, des matchs qui comptent, là.
Ouais, ben c'est fait. C'est fait depuis quelques heures. Canada-États-Unis en finale. Oui. Hier, le Canada a gagné 5-0 contre, je vais les appeler la Russie, même si le nom officiel, c'est athlète olympique de Russie. Ça a été un match qui a quand même été assez serré pour les 20-25 premières minutes de jeu. Mm-hmm. Mais après ça, les Canadiennes ont vraiment pris le dessus. Et de leur côté, les Américaines ont gagné assez facilement contre les Finlandaises aussi, 5-0, même pointage. Donc, la table est mise, Canada-États-Unis, pour cette finale, le grand rendez-vous des Jeux olympiques depuis que le hockey féminin est au jeu, c'est-à-dire depuis 1998. Et tu sais, ça devrait être un match assez formidable parce que les Américaines ont gagné la première édition en 98, mais depuis ce temps-là, 2002, 2006, 2010, 2014, ce sont toujours les Canadiennes qui se sont imposées. Puis Mario, tu te souviens sûrement du match de 2014, les Américaines qui mènent 2-0 avec de 3 ou 4 minutes à faire en troisième période. Le Canada qui marque deux buts, dont celui égalisateur de Marie-Philippe Poulin, et ensuite Marie-Philippe qui marque en prolongation. Tu sais, je me souviens, j'étais là à Sochi en 2014, dans la zone mixte. La zone mixte, c'est l'endroit où les journalistes rencontrent les athlètes après une compétition, puis les athlètes des deux pays étaient là. C'est la même zone mixte pour les deux équipes. Alors, t'as une Américaine qui donnait une entrevue, puis à côté, t'as une Canadienne, puis bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'était une scène vraiment hallucinante de voir ça. T'avais des Américaines en pleurs, là, mais qui pleuraient, là, puis qui donnaient des entrevues, puis tout de suite, à côté d'elles, t'avais des Canadiennes qui étaient au sommet de la joie. C'était vraiment une image là qui est encore très présente dans mon esprit. C'était vraiment quelque chose d'assez particulier de voir ça. Et là, alors tout ça pour dire une chose, c'est que les Américaines vont avoir le couteau entre les dents parce qu'elles veulent venger leur échec de Sochi. Alors ça devrait être tout un match. Alors nous autres en Corée, on est mardi, alors le match a lieu jeudi en Corée. Donc ça s'en vient dans deux jours.
La finale à Sochi, là, c'est un scénario d'Hollywood, ça frappe l'imaginaire. Hockey masculin, féminin confondu, c'est l'une des fins de match les plus incroyables que j'ai vues de toute ma vie. Et donc, là, il y a bien des façons de voir ça. On pourrait dire, bon, ben les Américaines sont dues. Puis en même temps, tu te dis, écoute, si on réussit à perdre ce match-là, ben peut-être qu'ils sont pas dû gagner pour un méchant bout de temps, Philippe.
Peut-être. Puis tu sais, moi, je pense qu'il y a une joueuse dans tout ça qui peut faire la différence puis qui doit sûrement rentrer dans la tête des Américaines, et c'est Marie-Philippe Poulin, bien sûr. En 2010, en finale, le Canada gagne 2-0 contre les Américaines. C'est elle qui est alors une toute jeune joueuse, une recrue dans l'équipe qui marque les deux buts en finale. En 2014, je viens d'en parler, elle marque le but égalisateur, le but vainqueur en prolongation. Aujourd'hui, elle est clairement la meilleure joueuse au monde. Alors, j'ai l'impression que les Américaines, quand ils la voient sur la patinoire, là, la numéro 29 qui est tellement habile, c'est sûr qu'il y a une bonne petite dose d'inquiétude dans leur tête. Alors, si je pense que les Américaines semblent avoir une meilleure équipe cette année, une grosse attaque, beaucoup caractère assez explosif de l'attaque. Mais bon, le Canada a réussi à gagner le match en ronde préliminaire. Ça n'a pas été joli parce que les Américaines ont lancé deux fois plus, 47 lancés contre 23. Mais c'est le Canada qui s'est imposé. Mais encore une fois, moi, je pense que c'est Marie-Philippe Poulin qui est susceptible de faire la différence dans cette rencontre-là. Quand elle est sur la glace, tu le vois, là, elle est tellement dominante. Elle joue à la pointe sur les avantages numériques. Très mobile, tellement imaginative avec la rondelle, un solide lancé. C'est vraiment une joueuse. Elle a fait tout un duo de choc québécois avec Mélodie Daou. Mélodie, qui est une fille de Valleyfield, qui étudie à McGill, qui joue avec les Canadiennes maintenant. Puis, tu sais, je me souviens, en 2014, elle avait fait l'équipe là, à la dernière minute, juste avant Noël. On lui avait dit qu'elle irait à Sochi. Elle était tellement contente. Elle avait un rôle un peu d'appoint, de réserviste. Et elle avait quand même bien fait. Elle jouait sur troisième, quatrième trio. Mais cette année, elle joue sur le premier trio. Elle joue avec Marie-Philippe Poulin. C'est vraiment une joueuse très importante dans l'équipe. Alors, c'est le fun de voir ça, la progression d'une joueuse comme celle-là en 4 ans, là, de passer d'un rôle d'appoint à vraiment un rôle essentiel dans l'équipe. Alors donc, les Québécoises au sein de l'équipe canadienne de hockey féminin là, occupent un rôle extrêmement important et auront un gros mot à dire dans ce match-là.
On a très hâte de voir ça donc jeudi. D'autre part, ça sent la médaille, ça sent le podium pour nos porte-drapeau canadien en patinage artistique, en danse. Et j'oserais ajouter que ça sent le podium, peu importe qui, dans l'ordre, les trois couples les mieux classés actuellement après la première partie du programme, eh bien, sont entraînés par Patrice Lauzon et Marie-France Dubreuil. Je glisse ça au passage, t'as dû les croiser, mais c'est exceptionnel.
Oui, c'est une histoire vraiment incroyable. Les trois couples, donc le couple français qui est deuxième et le couple américain qui est troisième, tout le monde s'entraîne dans le quartier Saint-Henri à Montréal à l'aréna du centre récréatif Gadebois. C'est l'aréna Silvio, les patinoires Silvio et Georges Manta.
Incroyable.
Et c'est là qu'ils s'entraînent. Oui, c'est vraiment incroyable parce que Patrice Lauzon et Marie-France Dubreuil ont fondé une école de patinage. Quand ils ont pris leur retraite du patinage artistique en 2010, ils ont eu un enfant, il fallait s'établir un peu, cesser les tournées de patinage. Et donc, ils ont fondé cette école-là. Et l'école a pris une expansion vraiment exceptionnelle. Hier, j'en parlais justement avec Patrice Lauzon après la performance de tous ses protégés, parce qu'en fait, il y a même un quatrième couple qui patine et qui le dirige dans cette compétition-là. Et tu sais, il disait que c'est sûr qu'il espérait que son école obtienne du succès puis que ça ait du retentissement, mais il pensait pas que ça serait aussi rapide. Et c'est là que tu vois combien Montréal est rendu une plaque tournante du patinage artistique mondial, parce que t'as Bruno Marco et sa sœur Julie aussi qui entraîne des patineurs, bon, qui est en couple, puis entraînement, chorégraphie, tout ça. Et puis cet été, tu as des patineurs, les patineurs nord-coréens, des patineurs sud-coréens. Bien sûr, Megan Duhamel et Eric Radford qui ont gagné le bronze en couple, qui se sont aussi entraînés à Montréal. Alors, dans deux disciplines, là, c'est-à-dire la danse sur glace et le couple, vraiment, Montréal occupe une place très importante. Et je te dirais que même le Canada dans tout son dans son entièreté, parce qu'à Toronto, il y a Brian Orser, c'est qui? Oui, médaillé d'argent pour le Canada aux Jeux de Calgary en 88,
derrière Brian Boitano, oui.
Oui, c'est ça, la bataille des Brian, la fameuse bataille des Brian. Et en 84, à Sarajevo, c'est le seul autre Canadien qui avait gagné des médailles, à part Gaétan Boucher, qui en avait remporté trois. Donc, lui aussi, il a son école de patinage, mais à Toronto. Et là, il entraîne le champion olympique de cette année qui vient de gagner il y a deux jours, le japonais Anyu. Et il y a également Javier Fernandez, l'espagnol, qui a eu la médaille de bronze. Alors donc, à Toronto, ces gars-là vivent, s'entraînent à Toronto. Et pendant ce temps-là, tu as des Américains, des Français qui s'entraînent à Montréal. Alors tu vois que l'axe Montréal-Toronto dans le patinage artistique international, aujourd'hui, c'est vraiment très, très important. Puis, tu sais, quand tu vois ça, là, tu sais, on peut dire, hey, c'est le fun, ils viennent patiner chez nous, puis ils sont heureux, puis tout ça, c'est très bien. Mais imagine l'impact sur les patineurs d'ici. Imagine quand tu es un jeune patineur québécois, montréalais, torontois, puis que tu patines dans ce club-là, puis que tu peux occasionnellement les côtoyer ou les voir parfois à l'entraînement ou des choses comme ça, l'effet d'émulation que ça provoque de voir des champions comme eux. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est assez unique.
Alors, ça n'a pas de prix. Tu fais très bien de le souligner. Avant qu'on se quitte ce soir, Philippe, les Russes ont le don de nous surprendre. Écoute, un cas de dopage en curling, tu sais, il faut le faire, hein?
Ouais. Oui, faut le faire. C'est bien le dernier sport qu'on aurait vu sur la liste des sports susceptibles d'avoir un test positif. Curieuse histoire, le curling mixte. Il y a un duo russe qui obtient la médaille de bronze. On se souvient, c'est la compétition qui a été gagnée par des Canadiens, par un couple canadien. Et les Russes, donc, qui prennent la troisième position. Et là, un test positif au meldonium. Alors, le meldonium, c'est quoi? Le meldonium, c'est un produit qui est interdit au niveau international depuis pas tellement longtemps. C'est parce que ça se vendait en vente libre en Europe de l'Est pendant des années. On attribue à ce médicament-là toutes sortes de bienfaits pour la santé, bon, des effets sur le cœur et tout et tout. Et c'est exactement pour ça que Maria Sharapova a été trouvée coupable de dopage et qu'elle a été suspendue là, pendant une longue période. Alors là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ce cas-là, parce qu'il y a une question très importante qui se pose, c'est que les Russes, pour avoir le droit de parader sous leur couleur nationale à la cérémonie de clôture, doivent avoir un comportement exemplaire pendant les Jeux de Pyeongchang. Alors, est-ce que quand tu as un test positif, est-ce que ça équivaut à un comportement exemplaire? Est-ce que tu punis toute l'équipe à cause de ça? Donc, la suite des choses va être intéressante à suivre.
Philippe, un gros merci, puis on se reparle plus tard cette semaine. Merci beaucoup.
Salut Mario, bonne journée.
Bonne journée à toi aussi.